11h, 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi. Aujourd'hui, en passant devant Notre-Dame, il était tellement triste qu'il avait une tête de gargouille. Ben H est avec nous.
Exceptionnellement, je le prends bien. Bonjour à vous, bonjour tout le monde.
Sa vie amoureuse va être adaptée en une série d'une seule saison et d'un unique épisode, celle qui n'est pas prête de se retrouver sur Netflix, Léa Landau.
Quel dommage, bonjour.
Comme notre première invitée, Chimen Badil s'est donné de la voix, mais seulement quand il cogne son petit orteil contre le coin de la table de nuit, le ténor soprano Jérémy Lorca.
Bonjour à tous.
En tant que passionné de littérature, il a une pensée toute particulière pour feu Victor Hugo. Il est encore sonné, même si c'est loin d'être une cloche, François Guédon.
Elle tient à s'excuser auprès des femmes dans le public, car à partir de maintenant, tous les yeux des hommes seront rivés sur elle, la sexy Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Ben H rendra hommage à Notre-Dame de Paris. À 11h30, nous recevrons la chanteuse Chimène Badi pour son nouvel album Chimène, qui sort ce vendredi. Jérémy Lorca nous expliquera pourquoi elle est un modèle à suivre. Et à partir de 11h50, l'écrivain Jean-Christophe Granger sera notre invité pour son nouveau roman La Dernière Chasse, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et Léa Landau lui a préparé une interview dernière fois.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Hier soir, un incendie a en partie ravagé Notre-Dame de Paris. Même en brûlant, Notre-Dame a accompli un miracle. Elle a enflammé le cœur des Français et a éteint les divisions.
Ouais, ouais, moi je me suis senti hyper mal et très très bête devant les images. Hier, je vis à Paris, je vis ici depuis 30 ans et j'ai attendu qu'elle prenne feu pour réaliser que je ne l'avais jamais visitée.
Et donc ce matin, Ben H, vous souhaitez lui rendre hommage ?
Eh bah oui, Anne, bah oui, parce que ce matin, on réalise qu'on a tous eu vachement peur hier, qu'on a frôlé le pire. Ce matin, Anne, on a tous envie de jouer au loto du patrimoine. Ce matin, on est tous un peu des Stéphane Bern.
Sous le ciel de Paris marchent les amoureux.
Non, hier que je suis, je ne l'ai jamais visitée. Mais combien de fois, Anne, j'ai flâné sur le parvis Notre-Dame, bras dessus, bras dessous, avec une jeune fille en sortant d'une boîte au lever du soleil. Combien de baisers j'ai pu échanger sous ses yeux chastes et froids comme la pierre. Combien de baisers j'ai pu échanger, sans doute un peu grâce à elle. Et elle, justement, combien d'histoires peut-elle raconter, après presque un millénaire de contemplation, de Paris, de la France et du monde entier, tous ces gens de tout temps venus à ses pieds juste pour voir ou pour prier. Et hier, un peu avant 20h, alors que je me tenais prêt à me faire enfumer par le président, bah j'ai eu peur, j'ai vu de la fumée par la fenêtre de l'appartement. Paris brûle-t-il ? Presque. Sa plus belle dame en tout cas. Pas celle de fer, encore plus beau, celle d'avant-hier. Celle de Quasimodo. Et si je parle en vers, c'est pour me la jouer, Victor Hugo. Notre-Dame de Paris, que l'on soit catho, athée, voire même anti, pour les profanes comme pour les cubénis, hier c'était notre histoire, presque la dernière chose qui nous lie, qui était piégée dans un incendie. À l'heure où Paris s'enflamme, déjà chaque samedi, qu'il était désespérant de constater, impuissant, que le hasard et la fatalité frapperaient eux le lundi. Mais grâce à Dieu, peut-être, grâce au courage et au talent de nos pompiers, plus sûrement, ce matin, depuis la butte Montmartre, comme depuis les terrasses de l'île Saint-Louis, pour les catholiques comme pour les séducteurs du parvis, Notre-Dame tient encore sur ses deux tours. Alors je conclurai par les mots de l'homme qui en parle le mieux. Œuvre colossale d'un homme et d'un peuple, produit prodigieux de la cotisation de toutes les forces d'une époque, sorte de création humaine en un mot puissante et féconde, comme la création divine dont elle semble avoir dérobé le double caractère, variété et éternité. Victor Hugo.
Mais vous m'avez mis les larmes aux yeux, Ben H.
J'y peux rien, c'est l'histoire, c'est l'histoire.
Non mais c'est vrai, c'était très émouvant.
Merci Anne.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Après sa reconversion ratée dans le football, Usain Bolt met en cause son ancien entraîneur. Comme le disait Jean de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut marquer à point. Et ça, c'est dans la fable Le Corbeau et le Neymar. Les débuts de la campagne de Raphaël Glucksmann sont compliqués et n'arrivent pas à convaincre les élus socialistes. Benoît Hamon aurait déclaré
Tu me fais bien, Benoît Hamon.
Ah ben c'est des années de boulot.
Jean Lassalle renonce à sa candidature aux européennes car il n'a pas réussi à réunir les fonds nécessaires à sa campagne. Étonnant, c'est bien la première fois que Jean Lassalle va manquer de liquide.
Roselyne Bachelot raconte avoir trouvé un énorme godemiché à l'Assemblée nationale. Eh ben, vous voyez que contrairement à ce que disent les gens mal intentionnés, ben les députés vont parfois au fond des choses.
Oh. En Australie, un restaurateur crée une pizza aux 154 fromages.
Oh mon Dieu!
On connaît maintenant la prochaine destination de vacances de Anne Romanoff.
Non, mais c'est pas vrai, j'ai pas mangé de pizza depuis au moins 5 ans. Je fais tellement attention, dans les restaurants italiens, je mange du carpaccio.
C'est vrai ?
Sans huile.
Avec du parmesan, avec du
et du pain.
Oui, sinon c'est trop difficile. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, Ben H, la lampe de François Guédon. Et deux de mes auditeurs qui tenteront de gagner un séjour en hôtel 4 étoiles en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jérémy Lorca, Léa Londo, Ben H,
toujours là.
François Guédon.
Bonjour.
Alors c'est le moment de notre jeu.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Alors on a appris ce week-end que Michel Houellebecq allait recevoir la Légion d'honneur le 18 avril prochain. Vous devrez deviner des personnalités qui ont déjà reçu la Légion d'honneur.
Et c'est dur.
Facile.
Hein.
Cette semaine, grâce à Europe 1, tentez de gagner un séjour pour
moi,
deux personnes au cœur du Beaujolais, au magnifique château de Pizet. Ah, ce château-hôtel 4 étoiles est l'un des plus grands domaines viticoles de la région, entre Brouilly et Morgon.
Ça va te plaire, François.
Ouais, mais moi je suis chaud, hein, ça y est. Déjà à Beaujolais, on m'avait convaincu. Hein.
C'est pas toi qui va y aller, ce sont les candidats.
On pourrait pas se faire gagner un jour.
Non, on ne peut pas. Vous serez accueillis en suite duplex au cœur de 80 hectares de vignes et de jardins à la française, de tourelles médiévales, d'une grande cour d'honneur, d'une piscine extérieure, d'un cours de tennis. Le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa, de découvrir les crus du domaine, de vous initier à l'œnologie. Et si vous le souhaitez, de prendre vos repas au restaurant gastronomique du château. Vous pouvez découvrir le domaine sur château-pizet.com.
C'est compliqué comme week-end quand même. Hein.
Non.
Parce que quand tu fais le soir au Beaujolais, le matin au tennis, je ne peux pas moi.
T'as le spa entre les deux.
Voilà. Oui, l'alcool est à consommer avec modération.
Il faut le faire dans le bon ordre. Ce week-end, tu fais d'abord le tennis, ensuite le spa pour te détendre. Et après, le soir, évidemment, tu profites et tu bois un petit coup et tu manges bien. C'est le week-end parfait.
Bon, on joue avec Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Bonjour.
Salut Aurélie.
Aurélie,
bonjour.
Vous avez 37 ans, vous êtes adjointe administrative à Quincey.
C'est ça.
Et vous êtes mariée depuis 2014 et vous avez un garçon de 12 ans. C'est avec le même homme ou bien?
Oui.
Ah. Vous avez eu un enfant à 25 ans?
Bah oui.
C'est
bah,
génial.
Ça va.
Non mais je trouve ça super.
Elle a trois enfants.
C'est le premier. Après, on en a eu deux ensemble encore.
Oh.
Wow.
Donc, on est ensemble depuis 2004. On est heureux, on est amoureux et tout ça.
Bon, arrêtez. Ça suffit, Aurélie. Hein.
Mais c'est agréable de savoir que ça existe.
Oui, mais c'est pas la peine de nous jeter votre bonheur au visage.
François, vous êtes heureux en amour?
Je suis heureux, mais sans amour pour le moment.
Non, mais t'inquiète pas, toi, t'es nouveau dans l'émission, c'est l'émission qui porte la poisse.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on est une vraie bande de losers quand même. Hein.
On est tous arrivés en couple, au bout de 3 semaines, c'était fini.
Mais non. C'est ça alors.
Non, Ben H, ça va, Ben H. Bah,
tout va bien à ce niveau-là.
Ah, ouais. Vous prenez la liste 1 ou la liste 2, Aurélie?
Liste 1.
Liste 1, et vous jouez avec qui?
Avec qui?
Je voudrais jouer avec Ben H.
Oh. Ah, une femme de goût.
D'ailleurs, elle dit que c'est son chroniqueur préféré, Ben H.
Oh. Oh, bah oui, elle a du goût.
Bah vous êtes mon auditrice préférée, sachez-le.
Vous êtes prête?
Et ça va le faire.
Oui, je suis prête.
Attention, top chrono.
Ok, c'est le monsieur qui vend des lunettes et on dit il est fou. Il est fou. Ouais. C'est une ancienne ministre de la Santé. Elle avait commandé plein de vaccins pour la grippe et maintenant elle est animatrice télé.
Chronique.
Ouais, c'est ça. C'est la femme de BHL, une femme très mince qui ne vieillit jamais.
Ariel Dombal.
Oui, c'est ça. C'est un présentateur de Canal+. Il présentait le foot. Après, il a présenté le Grand Journal pendant des années. Et il a le même nom que Drucker. Le même prénom que Drucker.
Michel Denisot.
Ouais, c'est ça. C'est un boxeur. C'est le plus grand boxeur de l'histoire de France. Ouais. C'est une chanteuse qui chantait comme les rois mages en Galilée. On n'était pas nés.
C'est celui qui
joue dans les gendarmes. Il a fait tous les gendarmes. Vite sur le gong là. Paf paf paf. Louis de Funès. Bravo.
Elle l'a pas dit. Elle l'a pas dit.
Mais
t'as pris de la drogue ou quoi? Je sais pas.
C'est que Douillet qui fait de la boxe.
Douillet, il a jamais fait de boxe.
J'ai dit boxe.
Oui.
Il fait du judo.
Elle a dit. C'est ça que j'ai pas compris. Elle a dit David Douillet fait de la boxe.
Il a dit le plus grand et du coup j'ai pensé.
Ministre de la Santé.
Ouais. En tout cas, 5 bonnes réponses et vous n'avez pas trouvé Shell.
Ouais.
Non, on n'a pas trouvé Shella.
Et puis Louis de Funès, bon, mais 5 bonnes réponses, c'est bien parti pour le week-end quand même.
Bravo.
On va voir comment se débrouille Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes opérateur logistique, Guillaume, vous avez 32 ans, vous habitez à Bondeval. Où est-ce Bondeval?
Oui. C'est juste à côté de Montbéliard.
D'accord. Vous avez deux enfants, un garçon de 3 ans, une fille de 1 an et demi.
Oui.
Et vous rêvez de faire plus de week-ends en amoureux.
Oh, oh, c'est mignon.
Ça, c'est chou.
Du coup, il y a la DAS, hein, si vous voulez.
Oh. Encore un qui est heureux en couple.
Oh là là, c'est mignon.
Et vous aimez qui dans l'émission, Guillaume?
Léa Landau, Benache, Didier Porte, Jean-Philippe Vizini.
Ah, ça va, il aime
Jérémy
tout le monde.
Jérémy Lorca qui vous embrasse.
Vous êtes opérateur logistique de quoi, Guillaume?
Je prépare des pièces pour les ateliers, mais c'est surtout dans le secteur automobile.
D'accord. Guillaume, vous jouez avec qui?
Qui est chaud pour
rattrapez-vous
pour faire pour plus de 5.
Oh. Allez-y, moi je peux.
Ouais. Moi aussi, si vous voulez. Ou...
Donc, soit Léa, soit Jérémy.
Désolé, Jérémy, mais je vais prendre Léa.
J'étais en train de travailler pour vous. Comme ça, je me suis battu pour vous faire gagner.
Et un râteau de plus, Jérémy.
Aïe, aïe, aïe. Allez, on est prêt? On est prêt, Guillaume?
Allez,
des personnalités qui ont donc eu la Légion d'honneur, il faut dépasser 5 bonnes réponses, donc en faire 6 pour partir en week-end. Attention, top chrono.
La créatrice des pièces jaunes, la femme de Jacques, ancien président.
Bernadette Chirac.
Oui, lui, il a joué dans Les Bronzés, c'est le mari de Marianne Chazelle.
Christian Clavier.
Oui, elle, c'est une nageuse, il y a son frère qui fait son grand retour en ce moment.
Laure Manaudou.
Oui, lui, c'est l'inventeur de Mickey Mouse. Celui qui a fait tous les dessins animés.
Oui,
tout à fait. Lui, c'est un ancien basketteur. Il sortait avec Eva Longoria.
Tony Parker.
Oui, lui, c'est un chanteur. Il a chanté Je suis malade.
Serge Lama.
Oui, elle, c'est une actrice. Elle jouait dans Manon des Sources quand elle était jeune.
Manon des Sources, non, je passe.
Lui, c'est un chanteur d'opéra très connu. Le plus connu, très populaire.
Je passe.
Bon, eh ben vous avez gagné.
Une liste beaucoup trop facile.
Guillaume, 6 bonnes réponses. Vous avez bugué sur Emmanuel Béart et sur Manon des Sources et sur Roberto Alagna, mais 6 bonnes réponses.
Avec une liste aussi facile, excusez-moi.
Non. 6 bonnes réponses. Alors bravo.
C'est le talent.
Guillaume a un cri de joie.
Oui.
Dans les aigus comme Roberto Alagna.
Et il a dit non à Jérémy Lorca.
Incroyable.
Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes au cœur du Beaujolais au magnifique château de Pizet. Ce château hôtel 4 étoiles est l'un des plus grands domaines viticoles de la région entre Brouilly et Morgon. Le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa, de découvrir les crus du domaine, de vous initier à l'œnologie et si vous le souhaitez de prendre vos repas au restaurant gastronomique du château. Plus d'infos sur château-pizet.com.
Bravo.
Merci.
Eh ben vous, alors vous allez partir en amoureux du coup?
Non, je vais prendre quelqu'un d'autre.
Non. Non mais vous
il plaisante.
Vous allez.
Non, elle est à côté de moi, c'est pour ça.
Comment? Passez-la moi.
Trop mignon. Il fait trop mignon.
Allô?
Allô?
Oui. Bonjour. Comment vous appelez?
Bonjour. Je m'appelle Christelle.
Ben bravo Christelle. Bravo. Vous allez partir en week-end?
Merci de ce que j'ai cru comprendre. Oui, j'ai pas osé trop parler à côté pour pas se déconcentrer. Merci beaucoup.
Ouais. Profitez bien, vous avez besoin de repos avec 2 enfants en bas âge. Merci beaucoup, continuez à nous écouter.
Bravo.
Aurélie, on est désolée.
Tant pis, c'est pas grave.
C'est surtout moi qui suis désolée, Aurélie.
Aurélie, c'est dommage, j'ai une réponse près. Vous rejouez avec nous d'ici un mois, Aurélie.
Oui.
Surtout que vous avez vraiment failli gagner. Donc on espère que la prochaine fois, ce sera la bonne.
À bientôt.
Oui,
salut Aurélie.
Gros bisous.
Au revoir, Aurélie.
Au revoir.
Si vous voulez aussi jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, François Guédon, Jérémy Lorca et Ben H.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jérémy Lorca, Léa Landau, Ben H, François Guédon.
Bonjour.
Selon certaines rumeurs, le prince William aurait trompé Kate Middleton avec une de ses amies alors qu'elle était enceinte de leur 3e enfant.
Ça, c'est pas bien.
C'est pas très...
C'est pas gentleman.
Non, pas du tout.
En plus,
c'est...
avec une amie,
c'est honteux.
Surtout, comment il a pu trouver mieux que Kate, quoi.
Ouais, elle est très jolie, quand même.
Ouais, elle est pas mal, hein.
Ouais, c'est vrai.
J'ai vu les photos.
Elle m'énerve un peu parce qu'elle est un peu mince.
Non, mais comme
Kate, elle m'énerve. Elle est trop mince. Elle a pas de hanches, elle a pas de bourrelet. Enfin,
tu vois, il s'en est lassé.
Ouais, exactement. On a la photo de celle avec qui il l'a trompée.
Pas encore, je crois. Ah.
Bon, alors voici des excuses quand on se fait surprendre. On vous aide dans votre vie quotidienne ici. Voici des excuses que si vous faites surprendre en train de tromper son ou sa chérie.
Alors chérie, c'est dingue, mais je cherchais mes clés avec comment tu t'appelles ? Enfin cette demoiselle très sympathique, et je me suis dit vraiment, hein, faut vraiment que tu cherches partout, hein, même dans les endroits les plus bizarres. Et bah en effet, elles sont pas là où je suis en train de les chercher.
Ma chérie, j'étais bourré. Il faisait noir et je te jure, j'ai cru que c'était toi. Et quand t'as ouvert la porte, je me suis rendu compte que c'était pas toi dans le lit. Et bah je te jure, ça m'a fait un choc.
Non mais attends chérie, c'est fini ces trucs de tu m'appartiens quoi. C'est hyper patriarcal, je suis une femme libre. Tu couches avec la voisine ? Super ! Oui, c'est super. Bah, viens voir deux secondes que je te crève les yeux.
Non, mais c'est de ta faute aussi, mon amour. Tu m'as toujours dit que ta sœur, dans le fond, elle est sympa.
Oh, oh non !
Bon, bah, je suis allé voir.
Bonjour, mon cœur. Bah, dis donc, t'es en avance. Bah, comme tu peux le voir, j'ai pas fini mon cours de yoga naturiste avec mon prof. Bah, on était justement en train de faire la position du pont-levis rotatif. Namasté.
Je ne suis pas en train de te tromper, je te présente Alfredo qui est venu réparer la chaudière. Pour rire, je lui ai dit que la chaudière c'était moi. Et bah je peux te dire qu'il est super professionnel.
Écoute chérie, c'est pas du tout ce que tu crois. Les apparences sont hyper trompeuses. Je ne connais pas du tout cette personne nue assise sur mon pénis.
Je te vois tellement sortir une... un truc comme ça.
Je nous trouve tous très inspirés quand même.
Oui, ma chérie, je comprends que tu sois choquée. Mais après tout, c'est un peu de ta faute tout ça. Hein. Bah ouais, tu m'as supplié de me rapprocher de ta mère. Eh bah voilà, c'est fait. Oh, mais t'es jamais contente aussi.
Ah non, non. Ne va pas t'imaginer des choses. Oui, on est nus dans ce lit, je confirme. Mais non, c'est pas du tout une histoire de sexe. C'est une affaire d'investissement. Tu croyais tout de même pas que j'allais mettre 1500 euros dans ce matelas sans l'essayer avant. On avait une semaine pour le changer. Si ça n'allait pas et toi t'étais en déplacement, eh bah bonne nouvelle, on a fait une affaire.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Jérémy Lorca, François Guédon, Léa Landau et notre invité Chimène Madi à l'occasion de la sortie vendredi de son nouvel album Chimène.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, Léa Landau, Ben H, François Guédon et notre première invitée qui est une chanteuse révélée par l'émission Popstar, devenue une des stars de la pop dès son premier single, écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Après 4 ans d'absence, elle revient en force avec son 7e album et pour elle, ses fans ont forcément les yeux de Chimène. Un tonnerre d'applaudissements pour Chimène Badi.
Bonjour, merci.
Merci. Bonjour Chimène Badi.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors,
bonjour.
Vous n'êtes pas fatiguée pour ce titre d'album Chimène ?
C'est un album éponyme, ça s'appelle.
C'est l'essentiel.
Non, mais je me disais, voilà, il n'y avait pas un titre en particulier que j'avais envie de sortir de l'album pour lui donner un nom. Ouais. Parce que chaque chanson a son monde, et en termes d'arrangement et par rapport au thème chacun. Donc voilà, je me suis dit que Chimène, ça pouvait être... c'était le plus simple, c'était le plus logique en plus.
Vous avez vendu un nombre de disques incalculable quand même.
C'est vrai.
Vous êtes un record. Vous êtes une des record woman de vente en France.
Il y a écrit 10e place des meilleurs vendeurs de disques en France dans la dernière décennie.
Ouais, mais
vous avez un public archi fidèle, quoi. C'est extraordinaire.
Oui, mais le public, quand il aime pas ou à un moment donné, quand il est pas d'accord, il le fait ressentir.
Ah oui, bien sûr.
C'est ce qui est premier album en 2003, 800 000 exemplaires. Ah oui. Ensuite. 1 million de dis-moi que tu m'aimes. On vous a dit qu'on vous aimait du coup.
Pour le coup, oui.
Tout ça, c'est incroyable quand même. 330 000, 110 000, 250 000.
Je viens du sud aussi, qui a été
énorme.
Un carton.
Ouais, c'est vrai.
Surtout qu'à la base, Popstar, il cherche un groupe. Vous êtes sorti un petit peu du lot.
Ouais.
Toute
en fait,
seule.
Je l'avais. Fait, à vrai dire, Popstar, moi, je voulais pas faire partie du groupe. Mais par contre, j'avais besoin d'un avis de
professionnel. Parce que vous chantiez depuis toute petite.
Ouais.
Et vous aviez à 3 ans. Non, pas à 3 ans.
5 ans.
À 6 ans, vous chantez à des concours de chants régionaux, réunions
non,
familiales.
Pas, alors non, 5-6 ans, j'étais la petite chanteuse de la maison qui chantait pour tout le monde. J'étais un peu le jukebox. Ma mère me demandait tout le temps de lui chanter des chansons.
Vous chantiez quoi ?
Tout. Je chantais de la variété française, je chantais de la soul, du gospel. Enfin, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours écouté de la musique, mais chacun avait son monde. Et du coup, j'ai baigné entre les deux.
Vous n'avez pas les mêmes goûts, vos parents ?
Pas musicalement parlant. En
alors,
tout cas.
C'est pas mal.
Votre mère a écouté
plus
quoi
variété française, ma mère.
Et votre père
ma mère, elle m'a fait écouter du Ferrat, du Brel, du Piaf. Et mon père, c'est toute la musique noire américaine.
Ouais. Donc vous avez fait un mélange des deux en fait.
Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai un peu le derrière entre deux chaises parfois, parce que musicalement j'ai envie de m'amuser. Et qu'en France, souvent, on nous met dans des cases et que c'est compliqué parce que moi, j'aime la musique pour ce qu'elle me procure et j'aime m'amuser et pas forcément rester toujours dans le même,
la première
dans
fois,
le même monde.
La première fois que votre père vous a vu à la télé, il paraît qu'il a des grosses larmes qui ont coulé sur ses joues.
Ouais, c'est vrai.
Wow. Est-ce qu'il savait pas que vous chantiez comme ça ou alors c'est de vous voir à la télé ?
Non, je pense que... Ah, ça fait longtemps, puisque je les ai pas vus. Parce que je suis en promo grave en ce moment.
Il vous manque ?
Ouais. Oh, c'est vous qui allez pleurer maintenant.
Ben en fait, ouais, il était, je pense qu'il a été ému. Et puis, mais mon père, au départ, il voulait pas que je chante hein, quand j'étais plus jeune.
Ah ouais ?
Non, non, lui, il voulait que je fasse des études. Il voulait, et pour lui, ça, c'était synonyme de galère, quoi.
C'était pas un vrai métier pour lui.
Ouais, et puis ma mère, elle lui a dit, tu devrais l'écouter. Donc un jour, il m'a appelé, je crois que je devais avoir 11-12 ans. Il m'a appelé, il était dehors, derrière.
Votre père était gardien de prison ?
Ouais. Il me dit, chante-moi une chanson. Et je lui dis, bah, tu veux que je te chante quoi ? Il me dit, bah, chante-moi un titre de Stevie Wonder, tiens.
Ouais.
Donc je lui chante un titre de Stevie Wonder. Et il me regarde comme ça. Je sens dans son regard qu'il se passe un truc. Il me dit, ok, merci. Puis je suis partie et il a dit à ma mère, si elle a envie d'être chanteuse, je serai là, je la laisserai jamais tomber.
Wow, c'est mignon. Génial. Ouais.
C'était comment ce titre de Stevie Wonder ?
C'était
chanté ?
Free ?
Non, c'était pas Free.
Superstition ?
Happy Birthday ?
Everyone's feeling pretty. It's a bird in July. The world for the problems. They could have touched to see the never then try. Didn't know you would be jamming until the break of dawn. I bet nobody ever told you that you would be jamming until the break of dawn. Would be jamming it, jamming it, jamming it, jam on.
Bravo! On adore!
Comme quoi, hein.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Chimène Badi, venue nous parler de son dernier album Chimène qui vient de sortir ce vendredi. Et il y a déjà deux titres disponibles sur les plateformes de streaming, Là-haut et Ce qui m'anime. Et dans quelques instants, elle va nous chanter en live Là-haut. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jérémy Lorca, oh Lando,
oui,
Ben H, François Guédon,
bon,
et notre invité Chimène Badi.
Ça va ?
Ça va, oui, oui, non, ça va super. Je suis très contente d'être avec vous. Ça me fait super plaisir, vraiment.
Et nous aussi, ça nous fait plaisir. Ah. Alors, on va écouter tout de suite un extrait de votre dernier album.
D'accord.
Qui s'appelle Là-haut.
Ouais, ok. Donc là, je dois aller chanter en live.
Bah ouais.
Salut.
Qui peut nous dire qui nous sommes ? Rien ni personne qui pourrait changer la donne. Rien ni personne, non, rien n'arrive par hasard comme nos vies qui s'égarent. Rien ne changera l'histoire. Ça vient de là, oh, comme le vent sur moi, oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là, oh, comme le vent sur moi, oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Est-ce que l'avenir nous retient entre ses bras? Entre ses bras, pourquoi remettre à demain? Si on se bat, si on se bat, non, rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire. Ça vient de là, oh, comme le vent sur moi, oh, le destin nous entraîne. Comme une ritournelle, ça vient de là, oh, comme le vent sur moi, oh, le destin nous entraîne, comme une ritournelle, ça vient de là, oh, ça vient de là, oh. Ça vient de là, oh, comme le vent sur ma peau. Le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut, comme le vent sur ma peau. Le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut. Le vent sur ma peau, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut. Merci.
Bravo.
C'était super.
Bravo, incroyable.
Vous avez bien fait de ne pas devenir... Vous aviez fait un bac professionnel chez Medmadi, BEP d'agroalimentaire, et ouais. Vous deviez devenir inspectrice de l'hygiène dans la restauration.
Ouais, t'imagines. C'est de l'amour.
Mais en fait, parce que mon père, il m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et j'ai dit, mais je sais pas, moi j'ai juste envie de chanter, le reste j'ai pas d'idée, je sais pas. Et puis comme j'étais assez à cheval sur l'hygiène et tout, les restos, j'avais des doutes, je me suis dit, bon ok, pourquoi pas ça. Et puis je passe le BEP parce que j'ai pas choisi, j'avais pas envie d'aller dans une filière ouais. Normale,
général,
ouais. Général, moi j'avais pas envie pour des tas de raisons. Et donc j'ai passé le BEP et au lieu de passer le bac, j'ai passé le casting de Popstar.
C'est bien joué. Votre bac à vous. Alors à 21 ans, vous vous retrouvez à chanter en duo avec Johnny Hallyday à l'occasion de sa tournée des stades.
Ouais.
11 dates avec Je te promets.
Oui, c'est vrai.
Ça a dû être un souvenir incroyable. Vous aviez 21 ans, chanter avec Johnny Hallyday.
Ça a été mon parrain un peu, hein, j'ai envie de dire, parce que. D'abord, c'est un homme hyper généreux qui m'a énormément appris. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Mais ce qui était assez fou, c'était... ce monde, évidemment, c'était assez dingue. Mais moi, j'avais juste envie d'être à la hauteur par respect pour lui, en fait. Voilà, je voulais qu'il soit content de moi et de mon travail. Et c'est ça qui me faisait vraiment flipper. Parce que il est impressionnant. Et que chanter à côté de lui... Quand j'ai mis mes ears et qu'il a ouvert la bouche, j'ai dit « Ah ouais, d'accord. » C'est chaud.
Ça faisait quoi, Chimène Bani, qui chante « Je te promets »?«
Je te promets le ciel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. »
Ouais, le grain.
Ça doit être chiant de faire un karaoké avec vous.
Ouais, j'avoue que des fois, mais en même temps, non, mes copines, elles chantent, elles s'en fichent. Ouais. Hein.
Et comment vous avez vécu l'expérience Destination Eurovision alors ?
Ah, c'était trop bien, c'était à refaire, je refais demain. Vraiment, c'était une très très belle expérience. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté avec autant d'envie, que je n'avais pas eu autant envie d'aller chercher le public. Il y avait un truc comme ça assez... assez fort. Et sincèrement, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas ressenti ça.
Moi, je vous dis honnêtement, je suis devant ma télé, je vous vois arriver dans cette espèce de concours quoi, pour représenter la France à l'Eurovision. Je me dis, mais quel courage.
Ah oui,
ouais, c'est vraiment. C'est ce qu'on m'a dit aussi.
L'humilité incroyable.
Ouais, ah ouais.
Et vous avez été stressée de vous remettre dans un concours, justement ?
J'y ai vraiment bien réfléchi avant de me lancer dans le truc. Et puis, c'est surtout, ma réponse, elle a été très simple. J'ai dit, je vais aller en studio, je vais travailler, et si j'ai la chanson, je le ferai.
Ouais.
Et c'est la chanson qui m'a donné l'énergie pour le faire, en fait.
Qui est là-haut, d'ailleurs.
Qui est là-haut. Ouais,
qui est super.
Coup, voilà. Et je ne me suis plus posé de questions à partir de ce moment-là. Je me suis dit, OK, je me suis lancée dans le truc, maintenant j'y vais.
Donc, en fait, Chimène Madi est à votre disposition pour toutes auditions.
Mais tu sais, Anne, si je m'écoutais, je passerais ma vie à aller faire des concours à l'étranger, partout et tout.
C'est vrai.
Ah ouais. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Il y a ce côté un peu défi que j'aime bien relever comme ça. Et puis, je suis dans mon élément avec un micro. Donc, voilà.
Jérémy Lorca a des choses à vous dire, Chimène Badi.
Oui, Chimène Badi, je suis ravi de vous rencontrer et assez troublé parce qu'on est venu au monde quasiment à la même date. On a donc démarré la vie au même moment. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu deux parcours bien différents. Pour vous, comme pour moi, ça s'est joué à 20 ans. Il y avait deux routes possibles, le succès ou Pôle emploi. Et c'est là que nos chemins se sont séparés. Et pourtant, cette année-là, on a failli se croiser puisqu'on a fait Popstar la même saison.
C'est vrai ?
Ouais. Et encore une fois, on a eu deux parcours bien différents.
C'est vrai ? Qu'est-ce qui t'a pris, toi, de faire Popstar ?
Alors, tu vas voir, je précise que pour ma part, c'est parce que j'avais perdu un pari. Mais sur un malentendu, j'ai quand même fait 3 tours sur moi-même.
Cool.
Alors d'ailleurs, Chimène, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on devait d'abord passer un casting de présélection la veille.
pour écrémer.
Voilà, et moi j'y vais, je donne tout, je chante Bruel, première fois de ma vie que je chante devant des gens, j'ai une révélation, je sens qu'il y a une pop star qui sommeille en moi. Et là où je suis en train de prononcer ces mots, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans le public d'Europe 1, parce que j'entends tout le public crier « Oh là là, mais comment tu chantes Patrick Bruel ?»«
Oh là là, comment tu chantes Patrick Bruel ?»
Mais quelle spontanéité. Puisque vous insistez...
Non, t'es sûr.
Attends. « Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. » Sur la télé, la neige envahit l'écran. J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule. Voilà.
C'est pas mal, et
du coup, c'est qui la pop star qui dort en toi?
Apparemment, elle s'est pas réveillée, la pop star qui dort en lui.
Et ben, vous savez quoi? Évidemment, il me donne le ticket. Moi, tu sais, le premier jour, oui. Je me vois déjà remplir l'Olympia. Le lendemain, donc, je passe devant le vrai jury. En plein milieu de la chanson, ils me disent chut. C'était trop de talent pour eux, ils étaient jaloux. Voilà comment s'est arrêtée ma carrière
énorme.
Musicale. Ouais, contrairement à la vôtre, qui s'est envolée grâce à cette émission, puisque vous n'avez pas gagné, mais c'est vous qui êtes devenue la vraie star issue de ce programme. Vous avez enchaîné les tubes et par la même occasion, vous avez redonné espoir à toutes les personnes qui échouent. Et on va pas se mentir, on est vraiment nombreux à échouer autour de cette table. Alors pour ça, merci Chimène Badi. À chaque fois, je me suis fait virer d'un truc, j'ai pensé à vous en me disant, je vais tellement tout déchirer comme a fait Chimène. Ils vont voir ce qu'ils ont perdu. Bon, ça n'a jamais marché. Mais un jour ça marchera. En attendant, vous allez faire le casino de Paris. Alors que, oui, alors que moi je vais juste faire le petit casino, hein. Mais c'est le petit casino en bas de chez moi pour faire mes courses. C'est différent. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même, Chimène Badi, parce que vous avez un mental d'acier, vous le dites, hein. Vous avez été harcelé à l'école, mais ça vous a pas empêché de vous surpasser. Vous faites Danse avec les stars, la première émission. Vous vous demandez ce que vous faites là, mais vous performez quand même. Alors vous êtes chanteuse et je suis d'accord avec vous, le physique on s'en fout, mais ça dénote quand même une sacrée force de caractère. Parce que moi je peux vous assurer, tous les dimanches, je me dis deux. Demain, je commence un régime. J'arrive à la cantine le lundi midi, il y a un éclair au chocolat, c'est foutu. Hein. Ma motivation a tenu 8 heures. Eh j'ai
ben,
pas votre
mental.
Ah bah ouais, j'ai pas du tout.
Il mange des frites avec.
Bah, ah, la balance.
Bah, ou les frites ou l'éclair, mais quand même pas les deux. Hein.
C'est ça. Et chaque fois, j'ai dit mais tu manges des frites. Il me dit mais oui, mais j'ai pas eu le temps de demander, on me les a
mis. Oui,
je
les mets d'office. Ah non, mais moi j'ai pas du tout votre mental face à la nourriture. Et on est nombreux autour de cette table à ne pas avoir votre mental face à la nourriture. Je ne vise personne. En tout cas, on vous sent de plus en plus épanoui. Hein. Vous dites que vous êtes bien dans votre corps et moi aussi, je rêve d'être bien dans mon corps. Enfin, j'aimerais déjà être bien dans le corps de quelqu'un d'autre.
Mais oh
ça,
non
c'est une autre histoire. D'ailleurs, pour être en couple, il faut peut-être d'abord trouver la paix intérieure. Et justement, à propos de votre titre là-haut, vous dites que ça sonne comme un appel à poursuivre son chemin vers le bien. Alors, merci de nous montrer le chemin et entre nous, je vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouvel album.
Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Bravo. Enfin.
Merci Chimène Badi d'être passé nous voir. On rappelle votre dernier album Chimène avec le single Là-haut qui est disponible sur les plateformes de streaming qu'on a entendu tout à l'heure. Et vous serez le 14 mars 2020 au Casino de Paris. Et en attendant, le 29 septembre 2019 à Binche en Belgique et le 2 février 2020 à Lille. Merci beaucoup Chimène
Badi. Merci à vous, merci à vous tous.
Merci. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Christophe Granger, l'auteur de Thriller, qui sera notre invité.
Midi 30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jérémy Lorca, Léa Landau, Ben H, François Guédon.
Bonjour.
Et notre invité qui est l'auteur des Glaçantes Rivières Pourpres, dont le livre a été vendu à 4 millions d'exemplaires et dont l'adaptation au cinéma fait 3,5 millions d'entrées. On doit également à cet ancien reporter le troublant scénario du Vidocq porté à l'écran par Gérard Depardieu et Guillaume Canet. Que ce soit en librairie, sur petit ou grand écran, cet auteur du Grand Frisson n'a qu'une passion, nous empêcher de dormir. Ce matin, il vient nous parler de son dernier livre, La Dernière Chasse. L'écrivain énigmatique Jean-Christophe Granger est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean-Christophe Granger.
Bonjour.
Vous venez nous parler de votre dernier livre, La Dernière Chasse. C'est un roman qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Alors, première question, hautement littéraire. Pourquoi, quand un roman fait peur, on choisit une couverture rouge et noire?
C'est
parce
vrai.
Que c'est les couleurs de l'enfer, c'est un clin d'œil à Stendhal, un hommage à Jeanne Masse. Alors, la symbolique, c'est « Ouah, il y aurait du sang et des ruelles sombres, attention ».
Alors, Jeanne Masse, non.
Déjà, non.
Stendhal non plus, d'ailleurs. Non, écoutez, le livre parle de la Forêt-Noire, donc de la région Forêt-Noire, où il y a des... belle forêt, et en l'occurrence, il y a des chasses là, assez terrifiantes qui s'y déroulent. Et le concepteur de la couverture a mis du rouge, un chien, parce qu'il y a des histoires de chiens dedans. Et ma tête derrière, en rouge aussi, qui fait peur. Quasiment.
Ah, c'est votre tête ?
Ah, bah, c'est moi, bien sûr.
Bah, vous êtes mieux en vrai quand même. Hein.
Ah, bah, merci, mais chez Albin, on tient à ce que je sois très inquiétant.
Ah, oui, voilà.
On dirait Hannibal Lecter.
Psychopathe. Et alors, ce qu'on peut lire sur le quatrième de la couverture, c'est en forêt noire, la dernière chasse a commencé, et quand l'alali sonnera, la bête immonde ne sera pas celle qu'on croit.
Ah,
suspense.
Ça fait déjà peur.
Alors.
Vous avez pas peur que les gens qui sont au régime comme moi bloquent sur le mot forêt noire, serait pas.
Il y a que toi pour penser à ça.
Ça aurait pu se passer aussi lors d'un trajet Paris-Brest, non ?
Paris-Brest, ah non, Paris-Brest, vraiment, ça fait pas peur. Non, forêt noire, quand même, c'est le lieu des contes et légendes avec. Vous savez, dans les dessins animés, quand les arbres se mettent à parler, quand tout devient très très inquiétant. Pour moi, c'est ça la forêt noire. En réalité, c'est une très belle région, hein, mais
vous
quand la nuit tombe,
oui,
à Fribourg, là, qui est aussi une belle ville, mais qui peut devenir très inquiétante.
Sympa pour les habitants de Fribourg.
Jean-Christophe Granger, les thématiques de la bête immonde et de la forêt sont utilisées depuis toujours dans l'histoire du roman noir. Vous vouliez écrire votre bête du Gévaudan à vous, ou c'est juste qu'un pigeon normal dans Paris, ça fait moins peur?
Ah, s'ils sont des millions, ça peut être pas mal, hein. Mais non. Moi, j'écris des polars où, oui, en effet, le tueur est toujours une espèce de créature maléfique. C'est toujours il y a le flic qui enquête et le tueur qui tue pour son plaisir ou pour un mobile très très sombre.
Mais
j'ai jamais fait d'histoire de gangster, ce
pourquoi
genre de
vous choses. Comment vous expliquez qu'il y a toujours des gens vraiment
alors,
très
c'est
flippant.
Quoi la question
flippant
dans vos livres.
Non, mais ah, alors ça.
Vous avez de la noirceur en vous, Jean-Christophe Granger ? Oui.
Alors, j'ai la noirceur que j'ai pas du tout dans la vie consciente et normale. Hein. Ça, je suis un type tout à fait souriant et cool.
Contraire de moi, moi, je suis souriante sur scène et pas du tout.
C'est vrai. Mais ma part noire, alors, elle jaillit vraiment dans l'imaginaire. Dès que j'ai une idée d'histoire, c'est toujours quelque chose
de très
sombre.
Ça vous étonne ? Ça vous fait peur ? Est-ce que vous faites peur à vous-même ?
Ça me fait peur quand les idées viennent, c'est-à-dire c'est des passages très brefs hein, de ma vie, comme ça, pendant un jour ou deux, j'ai une histoire qui se... Ah, ensuite, j'écris pendant un an cette histoire, qui était terrible quand elle est arrivée, mais après, je le fais comme un artisan, je réfléchis plus tellement au fait que je raconte que des histoires d'autopsie, de
mais du coup, vous enterrez où les corps hein.
Alors, à l'arrière de ma tête. Non, mais ça vient vraiment à mon avis, de mon enfance.
Ah ouais.
J'ai toujours été un petit enfant qui faisait des cauchemars, qui vivait avec la peur, comme ça. Et alors, bon, c'est un phénomène bien connu. Cette peur, je l'ai transformée en objet esthétique, en plaisir, et même en tant que lecteur ou spectateur, j'ai toujours été fan de films d'horreur, vous voyez.
Vous n'avez jamais eu envie de tuer quelqu'un, en fait ?
Ah, pas du tout, c'est vraiment de
allez,
l'ordre...
Allez, dites-nous tourne en
c'est vraiment de l'ordre de l'imaginaire et même de l'inconscient, parce que c'est assez étrange, quand les idées d'histoire vous arrivent, elles vous semblent arriver d'une part de votre cerveau qui n'est pas du tout familier, vous voyez, moi, dans la vie, je suis tout à fait tranquille, hein.
Alors on va lire les premières pages. Aucun souvenir ou presque, quand on l'avait repêché dans le torrent, ouvert de bas en haut, exsangue, il était rempli de flotte, comme une outre de trappeur. À ce moment-là, il était encore conscient. Conscient de quoi, on se le demande. Dans l'ambulance, il avait sombré dans le coma. 2 semaines étaient passées ainsi. 2 semaines de néant, avant qu'une lumière s'allume au fond de son cerveau. Un puits laiteux d'où jaillissent des objets vagues, des créatures informes, des bribes de vie. À ce stade, c'était l'idée du sperme qui prédominait.
Bah oui, bah alors là, j'ai pas de chance.
Pourquoi vous avez pas de chance ?
Bah non, mais parce que dans le premier paragraphe, c'est vrai, j'évoque le sperme. Non, il faut dire une chose très importante.
De quoi ? Moi, je sais même pas ce que c'est.
Ça fait très longtemps qu'elle en a pas vu.
Bonjour, enchantée.
Non, il faut dire une chose très importante. Dans ce livre, l'enquêteur est le héros des Rivières Pourpres. Que j'ai, alors c'est le cas de le dire, ressuscité, parce que finalement, dans les Rivières Pourpres, il mourait. Alors, quand je me suis souvenu de ça, j'avais envie de refaire une aventure comme ça. J'ai dit, mince, c'est vrai, il est mort. Et puis, je suis allé voir dans les dernières pages de mon livre, il flottait dans la rivière, apparemment mort, mais j'ai décidé de le repêcher.
Donc
et
c'est
là,
la suite,
ça
un
commence,
peu.
Voilà, c'est la suite et... On va comprendre quand même qu'il a subi une énorme opération, une très longue convalescence, et que maintenant c'est un immense un peu raccommodé et brisé de partout.
Et alors il est avec une jeune femme qui a 32 ans.
Voilà, qui apporte un peu la...
Et qui sent le riz soufflé.
Ah
c'est vous, c'est pas moi. Adit, c'est pas moi qui...
Dès qu'il y a de la nourriture, tu as... ça t'interpelle.
C'est inspiré de votre chérie ou pas du tout ?
Oui et non, parce que ce que j'aimais chez cette jeune femme, c'est qu'elle est quelque chose de... Bon, alors elle est très dure, hein, quand vous lirez le livre, elle a un passé bourré de traumatismes, enfin bref. Mais Ivana, elle a encore quelque chose qui respire un peu l'enfance et une fraîcheur comme ça, que Niémans adore, parce que lui, c'est quand même un type assez âgé, revenu de tout, qui croit plus à grand-chose.
Et alors,
chose.
Il a des problèmes avec les femmes aussi. Présence. Il dit « Chaque nuit d'amour avait été gâchée par le souci de bien faire. Il n'éprouve aucune vanité à faire jouir sa partenaire. Il avait toujours pris les femmes pour de parfaites simulatrices. » C'est terrible.
Ça, c'est tout à fait autobiographique.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Christophe Granger, venu parler de son dernier roman « La dernière chasse » qui vient de sortir aux éditions Albin Michel.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jérémy Lorca, yes. Léa Landau, François Guédon et notre invité Jean-Christophe Granger, un auteur de thrillers à succès, on peut le dire.
Ah oui, et puis ça fait plus de 20 ans que ça dure. Donc, enfin, attention, faut s'accrocher. Hein. C'est pas, comment dire, parfois on croit que quand on a eu un grand succès, c'est bon, on est lancé et puis on va rester en orbite comme ça. C'est plutôt le contraire. Il faut vraiment s'accrocher.
Ouais. Allez dire ça à la Rousseau, tiens.
C'est vrai. Dans la musique, tout ça, on pense.
Respecte
on pense
la Rousseau, s'il te plaît.
À la dégringolade, mais pour les livres, c'est pareil.
Tous vos livres marchent très très bien quand même.
Oui.
Alors vous dites, Jean-Christophe Granger, j'ai toujours été passionné par la peur, mais j'ai tout de suite compris que quel que soit ce que je vois dans un film, ça ne dépassera jamais ce qui s'est passé dans le réel. Je m'exprime sur mon allergie à la violence, sur ma volonté d'en parler, d'essayer de percer ce mystère. Vous deviez être un enfant un peu spécial, non, quand même ?
Non, mais j'ai été un enfant qui, quand il a compris que les guerres existaient, que l'homme était vraiment un animal d'une cruauté sans limite, ça semble étrange de dire ça, mais c'est quelque chose que j'ai jamais pu digérer, jamais pu accepter. Ça m'est resté sur l'estomac. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, alors oui, à la télé, je pense, j'ai vu le film de Nuit et brouillard. Mm-hmm. Vous voyez ce film ? Bon, il y a des images dans ce film, on ne peut plus jamais les oublier. Et on vit avec cette réalité au fond de l'estomac. Et comme je dis, des fois, il y a un quiproquo et un malentendu sur mes livres. Les gens pensent que j'ai une complaisance à l'égard de la violence. Mais c'est le contraire, vous parlez toujours de ce qui vous pose un problème. Moi je parle de la violence parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Mais même dans la vie, une bagarre dans la rue, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Ouais. Donc naturellement, quand vous écrivez, vous écrivez sur ce que vous avez sur le cœur. C'est un réflexe naturel.
Jean-Christophe Granger, vous dites que vous avez découvert le monde avec un photographe.
Ah oui.
Parce que lui dit que quand, avant de vous connaître, vous étiez un rat de bibliothèque, vous ne connaissiez rien à la vie.
Oui, avec des grandes
moustaches. Pierre Perrin, c'est un photographe qui a dit « Quand j'ai rencontré Jean-Christophe, il était un véritable rat de bibliothèque, il n'était jamais allé ni à la montagne, ni à la mer, ni dans les forêts. Il a tout découvert dans nos reportages, il était comme une éponge, il s'est ouvert aux autres, c'était formidable. »
C'est exactement vrai, ce photographe c'est Pierre Perrin qui m'a tout appris parce qu'en fait j'ai fait...
C'était un père de substitution ?
C'était en tout cas un mentor, il m'a formé parce que j'étais en fac de lettres. Après la fac de lettres, par les aléas des appuis, et puis surtout quand vous sortez de lettres, c'est comme si vous n'aviez aucun avenir professionnel. Donc j'ai fait de la pub, ça a été un cauchemar pour moi.
Vous êtes concepteur rédacteur ?
Un cauchemar de vivre dans ce monde artificiel et futile et commercial, où les gens se donnent des airs d'artistes, mais ils vendent de la lessive. Donc pour moi c'était épouvantable, et ça se doublait d'un problème plus grave, c'est que j'ai cru que c'était ça la vie. C'est-à-dire, j'avais passé mes années de fac.
Vous êtes marié très jeune.
Oui, alors justement, je m'étais marié, je cherchais du travail pour assumer un peu notre foyer. Et je me suis dit, bon, tout ce qu'on nous a raconté à l'université, c'est des blagues. La vraie vie, c'est la pub, les bourgeois. Vous savez, tous les gens que critiquent Balzac ou Zola, j'ai compris que c'était eux les maîtres du monde. Donc j'étais désespéré. Je me suis dit, il va falloir que je m'y fasse moi aussi et tout. Mais j'ai quand même été rebelle, j'ai démissionné et par chance, j'ai rencontré ces photographes qui avaient une agence et qui, je me suis proposé pour partir avec eux en reportage. Et du jour au lendemain, je suis devenu un aventurier, un grand reporter. Alors que ça, c'est vrai, jusqu'alors, j'avais jamais voyagé, j'aimais que lire et je pensais que les grands voyages, c'était dans la tête, quoi.
Mais ils vous ont mis sous l'orage, quand même ?
Oh là là, mais on était avec les Pygmées en forêt centrafricaine, on était au pôle Nord avec les Inuits.
Vous avez fait ça pendant combien de temps ?
J'ai fait ça, alors, une dizaine d'années, mais sur cette dizaine d'années, il y a eu déjà... J'ai commencé à écrire Le vol des cigognes, mais ce qui a été génial dans ma vie, c'est que je voulais écrire, mais j'avais finalement pas grand-chose à raconter. Et avec ces reportages et cette vie d'aventures que j'avais, j'ai compris que la vie m'avait offert comme ça un stock de souvenirs, de matériaux et puis d'infos, parce que nous on était freelance, on faisait que des sujets extraordinaires. Donc là j'ai compris que j'avais un matériau incroyable pour faire des romans policiers, mais d'un genre nouveau, quoi.
Et vous l'avez remercié, cet homme ?
Oh, je le remercie à chaque fois. À chaque
vous
fois
lui avez fait un cadeau, parce que remercier, c'est bien gentil. Mais
Un cadeau, vraiment, non, mais à chaque fois
quoi
que je
vous l'avez
envoie
à bouffer, quand même.
Bah, oui, ça, bien sûr, mais je lui envoie mes livres, et bon, maintenant, on se voit beaucoup moins, mais à chaque fois, je reviens sur le fait qu'il m'a tout appris, que c'est grâce à lui tout ce qui m'est arrivé, etc. Et il a été très heureux de me voir. Il voyait bien que j'étais quand même, bon, journaliste avec lui, mais qui avait toute une part de ma tête qui allait s'envoler ailleurs. Du petit, rat de bibliothèque, je suis passé à l'aventurier. J'étais assez solide pour un rat de bibliothèque et j'ai parcouru le monde.
J'imagine que là, vous avez eu des tentations avec les femmes, là, le côté reporter baroudeur.
Ah, non, alors à l'époque, j'étais jeune marié, quand on y croit.
Quand on y croit.
Et alors là, le fait est, j'ai vécu avec les Touaregs, par exemple, les femmes Touaregs sont stupéfiante. On a fait beaucoup de sujets sur des tribus rares et reculées, et on vivait avec ces gens-là. Donc, j'ai le souvenir, par exemple, chez les Touaregs, les femmes, elles venaient avec une petite harpe le soir.
Ah ouais.
On était dans notre duvet, et puis elles venaient nous jouer.
Et comme un serpent, ça
le serpent, bon, j'essayais de le calmer. Mais là, c'était quand même... tout ça dans le désert, avec les dunes et la lune, c'était un beau moment de ma vie. Ouais.
Mais vous avez résisté.
Oui, oui, serré dans mon duvet.
Enfin. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Christophe Granger. Vous nous parlez de son dernier livre, La Dernière Chasse, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jérémy Lorca, Léa Landau.
Bienvenue à tous.
Ben H, François Guédon et notre invité Jean-Christophe Granger veut nous parler de son dernier livre, La Dernière Chasse, un roman ou un thriller, comme on dit aux éditions Albin Michel.
Oui, maintenant on dit un thriller, mais on peut dire roman policier, hein, c'est une enquête de deux policiers. Mais on dit thriller.
On peut dire livre d'horreur aussi.
Ah ben moi, alors quand on dit thriller, justement, ça veut dire que ça flirte aussi vraiment avec la peur et tout ça. Donc moi, je suis le spécialiste du thriller, oui.
Jean-Christophe Granger, en 98, vous publiez votre deuxième roman, Les Rivières Pourpres. Immense succès, 4 millions d'exemplaires vendus, dont la moitié à l'étranger. Avec ce succès, vous auriez pu immédiatement écrire la suite, intitulée Les Couilles en or. Pour rester sur le thème des couleurs.
Mais j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Si vous voulez, quand j'ai écrit mon premier livre, Le Vol des Cigognes, j'ai vraiment beaucoup souffert. Chaque mot me pesait, chaque phrase, je ne savais pas si c'était cette phrase-là qu'il fallait écrire. Bon, j'ai eu cette chance d'être publié, j'étais heureux. Mais le deuxième a été une épreuve plus dure, parce que vous savez, un reporter qui écrit un roman d'aventure, c'est toujours possible. Mais le deuxième livre, c'est le moment où vous savez si vous êtes auteur ou juste un journaliste qui a écrit un bouquin. Alors, Les Rivières Pourpres, en plus, j'avais volontairement choisi le contraire du Vol des Cigognes. Le Vol des Cigognes, c'était un grand voyage. J'ai dit, bon, là, je sens qu'il faut que je fasse le contraire. Et tout se passe dans un petit village des Alpes. Bon, j'ai énormément souffert en me disant, le troisième, enfin, ça va être cool. Et le succès est arrivé. Et le troisième, alors là, c'était une torture atroce. Parce que, alors, à chaque phrase, je me disais, bon, bah, les gens vont plus aimer ce que je fais. Ils vont voir que je suis un petit imposteur. Enfin, le troisième, ça a été épouvantable. Ça s'appelle le Concile de Pierre.
Vous avez souffert du succès, Jean-Christophe Granger?
Énormément. Après, plus tard, j'ai fait une dépression.
À cause du succès,
je pense le succès était une des raisons.
Ah oui,
ça, j'en suis sûr.
Vous avez divorcé
comme
aussi.
Quoi, hein.
Oui.
Ouais, bah, c'est peut-être la dépression qui vous a fait divorcer. Le divorce qui vous a fait divorcer.
Non, c'est le succès qui a créé le divorce.
Non, je pense que c'est un mixte du succès et du divorce. Alors, vous savez, on appelle ça la compensation. Si, quand vous avez des tensions dans votre sensibilité et votre esprit, votre personnalité fait qu'à force d'énergie et d'effort, vous réussissez à être équilibré. Puis, il y a la décompensation au moment où tout s'écroule et vous n'arrivez plus à vous maintenir au niveau. Et c'est ce que ça m'a fait. Donc, en fait, je suis tombé dans la dépression 4 ans après mon divorce et 7-8 ans après mon succès. Mais c'était des tensions que je gardais en moi. Et le succès, pour moi, ça a été toujours une angoisse, parce qu'il y a des artistes, ils ont du succès, ils se disent, c'est génial, c'est normal, je suis génial. Et puis il y a d'autres artistes comme moi qui disent ce succès,
est-ce que je suis légitime, voilà, c'est ça ?
Ce succès est un coup de chance incroyable. Est-ce que ça va durer ? Est-ce
voilà,
que
ça je fait suis 20 ans que ça dure. Que ça
alors fonde. Attendez, maintenant je suis plus cool. Ouais. Mais à l'époque, je crois que je me suis quand même effondré à cause de ça.
Et comment vous vous êtes relevé de cette dépression ?
Alors,
ça intéresse Léa parce qu'elle est en dépression depuis plusieurs années.
J'ai suivi, je pense, le traitement classique pour l'urgence des
l'alcool.
Médicaments. À l'époque, avant les médicaments, il y avait l'alcool, mais pour l'urgence, les médicaments auxquels j'ai très très bien réagi. Du jour au lendemain, je suis redevenu normal. Ça, c'était extraordinaire. Tout le monde tape sur les antidépresseurs. Je peux vous dire, moi, je leur dois une fière chandelle.
Et
puis,
d'arrêter.
Une longue analyse.
C'est facile d'arrêter, parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas commencer les antidépresseurs. C'est compliqué d'arrêter.
Alors, ce n'est pas si facile, parce qu'il faut y aller en décrescendo.
Mais il a fait une longue analyse, Jérémy.
Il faut les deux, les antidépresseurs et l'analyse.
C'est d'autant moins facile, parce qu'il s'agit quand même du cerveau humain. Donc, dès que vous arrêtez, l'angoisse revient.
Du coup, on compense
que
avec l'héroïne.
Que la dépression reprenne. Quoi. Ouais. Et donc, et c'est difficile d'arrêter dans le sens où arrêter, c'est déjà retendre la main au problème. Quoi.
Vous dites, ce que j'aime chez un enquêteur, c'est quand il ne vit que par son enquête, il ne dort pas, il ne baisse pas. Et quand il a 2 heures à tuer, il se planque devant la maison du suspect. Il doit avoir le côté monomaniaque que j'ai avec mon écriture. Et moi, je ne suis pas enquêtrice, mais je ne baisse pas beaucoup non plus. Un enquêteur, quand il ne bosse pas, il picole dans les bars, non ? Vous vous planquez dans la maison de qui, Jean-Christophe Grange ? Vous avez déjà espionné des gens ?
Alors, ce que j'aime, c'est ce type de héros. J'ai toujours aimé dans les films ou dans les livres que mon héros soit totalement collé à son enquête. C'est assez, je trouve, assez déceptif, les personnages d'enquêteurs, de flics. Alors, les gens aiment beaucoup ça, mais moi, je l'aime beaucoup moins quand ils ont des problèmes de famille ou qu'ils rentrent chez eux tout d'un coup, alors ils font leur plat au micro-ondes. Je trouve, par rapport à l'enquête, l'urgence de trouver un tueur qui coupe les femmes en morceaux, c'est quand même très, très faible. Alors, à part ça, moi, c'est vrai, bon, maintenant, ça l'est moins, mais quand j'ai commencé à écrire, j'étais totalement incarné dans cette écriture et dans cette quête de m'épanouir en tant qu'écrivain. Il faut dire, là je ne vais pas faire le petit malheureux, mais qu'à part le problème du talent ou du non-talent pour écrire, tout est fait dans la société pour que vous fassiez autre chose. Enfin, par exemple, moi j'ai eu énormément de mal à travailler chez moi. Même quand j'étais reporter, je disais aux personnes avec qui je bossais, je préfère travailler chez moi, je serais plus efficace chez moi. Personne ne voulait entendre ça. Il fallait que j'aille pointer dans un bureau tous les jours. Et ça, ce n'était pas ma nature. Maintenant, c'est cool. Je viens ici solitaire, tel le loup. Mais à l'époque, pour toucher mon salaire, il fallait que je vienne tous les matins avec la machine à café, le machin.
Mais toujours.
Moi, j'ai dit, c'est pas...
Oui. Le Pôle emploi, il ne veut rien entendre. Moi, j'ai dit, au Pôle emploi, chez moi.
On connaît. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Jean-Christophe Granger, venu nous parler de son dernier thriller, La dernière chasse, aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jérémy Lorca, oui. Lalando, Ben H, François Guédon et notre invité Jean-Christophe Granger venu nous parler de son thriller. La dernière chasse. Vous dites que c'est pas le même mot thriller et polar et que polar est moins chic que thriller.
Écoutez, moi, ce dont je me souviens, c'est que quand je suis arrivé, disons, sur le marché, il était très clair que je faisais des romans policiers différents. Surtout différent de ceux qui s'écrivaient à l'époque, qui étaient, on appelait ça le néo-polar, qui était très politique, très social. Et souvent, l'enquête policière était un prétexte à dénoncer tel ou tel problème politique et tout ça. Moi, je suis arrivé avec des histoires qui se voulaient prenantes, vraiment des pures histoires, des aventures, vous voyez. Et on m'a tout de suite comparé au style d'écriture américain qui était à l'époque. Justement, très pêche-tourneur comme ça.
D'ailleurs, Albin Michel. D'ailleurs, Albin Michel vous a sorti deuxième ligne dans la collection et le même lancement qu'en Marie Jane Clark.
Ça a été un coup de génie marketing parce que mon premier livre, Le vol des cigognes, personne n'a trop compris, même le titre, les gens ont cru que c'était peut-être un truc romantique, vous voyez. Ouais. Et ils ont dit, non, il faut que le public comprenne que ce type écrit des romans à l'américaine, c'est-à-dire très prenant, très haletant. Et ils m'ont mis dans cette collection, à l'époque, Mary Higgins Clark, c'était l'impératrice du suspense, et ça a été un détonateur. C'est-à-dire que tout le monde a eu la curiosité de regarder le français qui approchait comme ça sous l'aile de la grande.
Et en plus, ça fait vraiment peur. Là, il y a une victime décapitée en forêt, des entrailles, des organes génitaux volés.
Oh. Dans mes livres, c'est érotique.
J'ai fait ça.
Mais où vous trouvez l'inspiration?
Léa Londo, des questions à vous poser.
Jean-Christophe Granger, votre dernier livre, donc on l'a dit plusieurs fois, s'appelle La dernière chasse. Je vous ai préparé une interview dernière fois. La dernière chasse aux femmes que vous ayez faite, Jean-Christophe Granger.
Oh là là, et oh. Ce que je peux dire, c'est un souvenir personnel, ouais. C'est que quand j'ai chassé, mais le mot n'est pas terrible, ma femme actuelle, là, j'ai souvenir que j'étais en pleine possession de mes moyens. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que j'étais sûr de moi, le succès vous aide un peu. Et là, j'ai joué, comment dirais-je, le conte dont on rêve tous. C'est-à-dire, je l'ai vu de loin dans un défilé de mode, je me suis débrouillé pour avoir son adresse, j'ai envoyé une pluie de fleurs et je lui ai écrit « Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous aime ».
Oh non, wow. C'est vrai,
bravo. Bravo. La dernière fois, incroyable.
C'est beau. Et elle vous a répondu direct.
Un petit coup de fil, là, on est retombé un peu dans Mais oui, très sympa. Et puis j'ai découvert qu'elle parlait pas mal français.
Ah ouais.
Ce qui était alors...
Quand elle a dit « Monsieur, laissez-moi tranquille ».
Il y avait ce risque-là. Hein. Non, mais là, j'ai compris que c'était un cadeau du ciel, une aussi belle japonaise qui, en plus, parlait français, parce que moi, ça a toujours été mon rêve, quand même, d'approcher les femmes
comme
mystérieuses
quoi, faut tenter,
de l'Asie.
Hein. Oui, il faut tenter.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est que je me suis lancé. Et j'ai pas regretté.
Oh là là. Donc,
on va prendre des actions chez Interflora.
On va aller voir le défilé de mode.
Oui, surtout. Ouais. La dernière chanson que vous avez fredonnée, Jean-Christophe Granger.
La dernière chanson que j'ai fredonnée. Alors, j'ai une petite fille de 11 ans qui est très rock, qui me fait des devinettes.
Ah ouais?
Et ça doit être une chanson de Bowie où elle me donne quelques.
À 11 ans, elle connaît Bowie?
Ah oui. Je suis très content.
Ah ouais?
Je la forme.
Ah ouais?
Mais elle est très réceptive. Et puis, alors, je ne sais pas si vous savez qu'il y a cette mode, mais on a dû aller au Puce de Saint-Ouen acheter un tourne-disque. Elle veut des vinyles.
Ah, bien sûr.
Et c'est extraordinaire quand je la vois faire avec le bras.
Ah, moi aussi, ma fille m'a amené acheter un tourne-disque.
Elle me dit, je suis très vintage.
Elle est géniale. Et alors justement, la dernière signature que vous avez apposée, c'était sur un chèque, un contrat ou un autographe?
Écoutez, alors là, je vais vous raconter une anecdote parce que c'est assez extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, mais en Turquie, je suis une superstar, mais justement, comme David Bowie, par exemple. Une fille pleure quand elle me voit et tout.
C'est vrai.
Et là, j'en reviens. Ouais. Et en une session de signature, j'ai signé 1500 livres.
Non.
Si. Wow. Ils m'ont pris en otage, ils ont refusé qu'on ferme la librairie. Ils refusaient de partir.
Mais en turc, vous partiez avec combien de numéros?
Mais en turc, alors. En turc, vous signez en turc?
Il y a une technique, ils arrivent, ils ont un post-it avec leur nom, et moi je mets le nom, et puis c'est tout, parce que quand il y a du monde comme ça, c'est du travail à la chaîne.
Vous n'avez pas appris à écrire amitié en turc?
Oh, je devrais, hein. Merci Anne de vos conseils. Mais non, je mets le prénom et ma signature.
La dernière fois que vous avez raconté une blague drôle, c'était quand et laquelle?
Écoutez, mes blagues drôles, c'est mes divorces. Et je ne les utilise plus, là, comme arme fatale.
La dernière chose que vous aimeriez dire à Anne Romanoff avant de quitter ce studio, Jean-Christophe Granger?
Ah, merci beaucoup, et je trouve que votre émission est super sympa.
Ah.
Merci.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Jean-Christophe Granger, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on démarre une histoire qui est poursuivie par l'invité avec un mot imposé à piocher dans son.
Okay. Oh,
c'est quoi?
Loup.
Loup. Alors, et juste en deux phrases, l'histoire a été démarrée hier par Patrick Sébastien. À vous de la poursuivre.
J'étais assis sur un banc devant un coucher de soleil. Il n'y avait rien d'exceptionnel et je me suis dit, c'est que du bonheur.
C'est alors que les arbres se sont mis à dessiner des ombres de profil de loup et je commençais à avoir très peur.
Merci Jean-Christophe Granger d'être passé nous voir. On rappelle votre dernier thriller, La dernière chasse, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Un livre qui va vous faire frissonner de terreur et de plaisir. Merci Jean-Christophe Granger. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.